6. Là, avant de lire Romains 6, je veux faire de quoi? Je veux vous expliquer quelque chose. Vous savez, des fois, c'est possible de lire la Bible, puis qu'elle nous impacte pas de la même façon. Souvent, ça dépend de notre état spirituel. Des fois, on a des bouts plus durs, puis tout ça, puis ça me parle pas. Mais des fois aussi, juste amener les choses d'une perspective différente, ça nous aide. Fait qu'on va lire les 14 premiers versets de Romains 6. Mais ce que je vais faire, je vais lire, quand on va lire le mot péché, je veux que vous autres, avec vous, une forteresse particulière, la peur, l'angoisse, l'amertume, la convoitise. Quand je vais lire péché, remplacez ça. Moi, je vais prendre, OK, juste pour le but de l'exercice, je vais dire peur, OK? Mais vous, dans votre cœur, vous pouvez dire le mot avec lequel, puis vous allez voir, là, ça amène une perspective différente avec le texte qu'on est habitué de lire, OK? Vous êtes prêts, tout le monde? On fait ça. Donc, on lit Romains 6, on commence au verset 1. Et des fois qu'il y a péché, je vais dire peur, mais pour vous autres, vous pouvez penser à vous, OK? Vous allez voir comment ça amène une lumière différente. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans la peur afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts à la peur, comment vivrions-nous encore dans la peur? Ignorez-vous donc, et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps, puis là on va dire le corps du péché, le corps de notre chair, le corps, OK, de la peur, peu importe, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves de la peur. Celui qui est mort est libre de la peur. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité, que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour la peur qu'il est mort. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort à la peur et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que la peur ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres à la peur comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice, car la peur n'aura point de puissance, de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. N'est-ce pas que ça l'amène un peu, on peut le refaire, le relire par mettant, OK, c'est une hérésie de faire ça, le péché, on peut juste, dans le fond, on spécifie quel péché, puis on peut le faire avec différentes choses, ça l'amène un regard différent. Maintenant, ayant fait cet exercice, c'était juste un peu pour s'introduire au chapitre 6, mais aujourd'hui, à proprement parler, on ne va pas se pencher sur le chapitre 6. On a lu le chapitre 6 parce que c'est avec ça qu'on va commencer la série, évidemment, parce qu'on fait Romains 6, 7, 8. Mais aujourd'hui, je veux un peu faire un pas de reculon pour nous préparer à rentrer comme il faut du bon pied dans Romains 6. OK? Parce que Romains 6 nous parle de notre appropriation de notre victoire par notre union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, on va vraiment naviguer, on va prendre notre temps dans cette série-là pour regarder comme il faut. On n'est pas pressé. Cette révélation du Nouveau Testament, cette grande vérité bénie de notre victoire glorieuse, notre libération par notre union avec Christ. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est regarder spécifiquement l'importance avec Romains 5. On va pas lire Romains 5, vous le lirez par vous-même à la maison, mais l'importance de d'un mot qui est au pluriel ou au singulier, péché pluriel, péché, singulier. OK? On va distinguer ça des deux. Premièrement, Romains 5 se divise en deux. Romains 5, 1 à 11, puis Romains 5, 12 à 21. OK? C'est vraiment à peu près, on coupe la poire en deux. Les 11 premiers versets de Romains 5 utilisent avec prééminence le mot péché au pluriel. Ça parle des péchés. OK? Tandis que les versets 12 à 21, puis même en passant pour votre information, à partir de ce moment-là, puis Romains 6, 7, 8, ça, la grande prééminence de l'emploi du mot péché est au singulier. OK? Donc, singulier, pluriel. Quand on parle du péché au pluriel, les péchés, ça parle de péchés commis contre Dieu. OK? C'est les péchés innombrables qu'on a pu faire, des actes de péché. OK? L'action de péché, c'est pluriel. OK? Quand on parle de péché au singulier, ça réfère au péché en tant que principe, en tant que puissance en nous. Le péché qui agit en nous. En anglais, on dit « indwelling sin », le péché qui est en nous, qui est dans nos membres. Okay? Donc, il y en a que c'est singulier, ça réfère aux actes. L'autre, ça réfère à ce qui nous anime. Okay? Comprenez-vous la distinction? Je vais continuer à vous donner plus de détails. On a besoin d'être pardonné pour tous nos péchés, n'est-ce pas? Passé, présent, avenir, mais aussi on a besoin d'être libéré du péché. De la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement, n'est-ce pas? Fait qu'on a besoin des deux. On a besoin d'une double délivrance. Puis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand on parle de péché au pluriel, on réfère à ce qu'on a fait de mal. Des actes, on a-tu fait du mal dans notre vie? On a dit des affaires, on a fait des affaires. Le mal qu'on fait. Ça, c'est péché pluriel. OK? Mais quand on parle du péché, au singulier, on parle du mal qui est en moi. Comprenez-vous? C'est pas juste, tu sais, pourquoi je fais des péchés? Ben parce que le péché est en moi. Donc, ma nature pécheresse se manifeste par des actes de péché. OK? Donc, singulier, pluriel. Et ça, c'est ce qu'on est par nature, selon la parole de Dieu. OK? On est pécheur par nature. Là, on va parler plus tard pour en tant qu'on est chrétien. Après, il y a des... En fait, ça change fondamentalement, mais bon. Et déjà, on s'entend... Là, savez-vous, dans le monde chrétien, tout le monde, on s'entend, c'est clair. Les vrais enfants nés de nouveau, on s'entend, on apprécie le plein pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Quand on est un enfant de Dieu, on est pardonné de tous nos péchés. Même si des fois, il y en a qui luttent à croire ou accepter pleinement qu'on est vraiment pleinement pardonné. Pourtant, tu sais, Jésus, quand il dit « tout est accompli », c'est complet. Puis on le dit des fois à quelqu'un, hein, avant d'être sauvé, « Hey, si tu reçois Jésus comme ton sauveur, il va te pardonner de tes péchés passés, présents, à venir, n'est-ce pas? C'est au complet. » Et donc ça, c'est la question des péchés au pluriel. Mais la majorité des chrétiens sont, des fois, je dirais, sur le bord du désespoir par rapport à la délivrance du péché qui est en eux. La puissance du péché, n'est-ce pas? Je vais-tu finir par m'en débarrasser? Il est donc bien tenace. On comprend l'idée, OK, Jésus a payé pour tous mes péchés, mais ah, ce péché-là qui est en moi, comment ça que je ne suis pas capable d'avoir la victoire dessus? OK? Parce qu'on a besoin d'être pardonné pour ce qu'on a fait, mais aussi on a besoin d'être délivré de ce qu'on est. Comprenez-vous, c'est plus que juste des choses extérieures. C'est ce qui est intimement dans mon cœur. OK? Et je suis content de vous dire que l'œuvre de Christ couvre absolument tout ça. Et là, je vais arriver avec deux expressions qui vont suivre pendant tout le temps du message. La réponse à nos péchés pluriels, c'est le sang. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Tous nos péchés, OK? Dans leur ensemble. La croix, c'est ça qui règle le péché en moi, la puissance du péché en moi. C'est ça, Romains 6. C'est pour ça qu'on... Puis vraiment, c'est... je pense que notre préparation à Romains 6, c'est beaucoup par rapport à la croix. Fait qu'on va prendre le temps, à la fin du message, d'en parler. Mais comprenons d'abord... Si je vous lis, à plus forte raison, Romains 5, 9, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Le sang de Christ nous amène le pardon des péchés. On est justifié devant Dieu. Dieu ne nous regarde plus comme coupables parce que le paiement pour nos péchés a été satisfait. On va en parler dans un instant plus en détail. Puis ensuite, ça c'est le sang. Puis la croix, ben Romains 6:6, on l'a lu, hein? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. La croix, là, ça ne parle pas juste de ce que Jésus a fait pour nous. La croix, ça parle de ce qu'il a fait avec nous. De ce qu'on est identifié dans sa mort. Quand Jésus est mort, on est mort avec lui. Quand on est un enfant de Dieu, on est mort avec Christ sur la croix. Je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie du message. Très, très important à comprendre. Maintenant, commençons par parler du sang. On va parler du sang d'abord. OK? Vous avez-vous déjà arrêté sur le fait que le sang de Jésus, c'est d'abord et avant tout pour Dieu qui a été versé? Oui, on en bénéficie. Mais c'est son sacrifice expiatoire. Il a fait l'expiation contre la colère de Dieu contre nous. Donc, c'est Dieu qui devait être apaisé. C'est pas nous, c'est Dieu qui est apaisé par le sang de Christ. Le sang de Christ, c'est notre statut devant Dieu. Dieu nous voyait dans sa colère parce qu'on était dans notre péché et dans nos péchés. Mais Christ est l'agneau pascal. Et c'est ça, n'est-ce pas ce que Dieu a dit avec justement l'agneau pascal? Oh! Christ est l'agneau pascal, le sang. Christ a renversé son sang. Ça, c'est pour vous garder réveillé. OK? Donc, regardez ça, puis soyez réveillé. OK? Si vous n'êtes pas endormi, là, je vais vous le tirer de même. OK?
Toutes mes forces m'ont essayé.
Oui.
L'application.
Fait que Christ, c'est l'agneau qui a versé son sang. Puis, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand je vais voir le sang, je vais passer par-dessus. Donc, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui avait sa colère, qui était là, qui se déversait. Puis l'agneau était celui, tu sais, qui est, le sang versé, c'est un type de Christ. Dieu passe au-dessus. Et là-dessus, on a dans le Nouveau Testament quelque chose par rapport à ça dans Hébreux au chapitre 9. Ça nous dit, mais Christ, oh j'aime ça les mais dans la Bible, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, donc le ciel même, la présence de Dieu, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme il y avait dans l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez-vous, le sang, c'était pour présenter à Dieu. L'expiation, la rédemption, c'est ce que Dieu a reçu par le Fils. Dieu, le Père, a reçu par le Fils. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Et tu sais, dans l'Ancien Testament, c'était tous des types de ça, le jour des expiations, hein, le sacrificateur rentrait, ben là, Christ lui est rentré une fois pour toutes, comprenez-vous? Je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais tout est accompli en Christ avec ça. Et donc, Dieu est satisfait. Ses exigences face à nos péchés ont été remplies. Il est apaisé. C'est ça l'idée de l'expiation. OK? Aussi, fait que ça, le sang, d'abord, c'est par rapport à Dieu. Dieu est satisfait. Aussi, le sang, c'est notre accès à Dieu. Comment je peux me présenter, moi, devant Dieu? Ben, je me présente comme étant lavé dans le sang de l'agneau, justement. Donc, non seulement c'est pour Dieu, mais aussi c'est mon accès devant Dieu. Parce que, oui, Dieu est satisfait, mais aussi, savez-vous quoi? Le sang de Christ a un effet sur ma propre conscience. Écoutez ce que ça nous dit dans Hébreux 10. 19 et 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Voyez-vous, on a notre accès. On continue verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. OK? Donc, c'est notre accès à Dieu. Puis, on sait dans Ézéchiel, hein, Dieu nous a donné un nouveau cœur. Puis on a un nouveau cœur, une nouvelle conscience devant Dieu. Notre conscience ne nous accuse plus. Un autre verset dans Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, encore le sang, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? On peut s'approcher de lui comme des sacrificateurs dans le service du Seigneur. Et ça, c'est l'inverse de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament rappelait le péché en disant, quand tu offres ton agneau, OK, je couvre pour l'instant, mais j'ai dit quoi? C'est toujours à recommencer. C'était pas une fois par vie là, qu'on faisait ça, là, une fois pour toutes. Là. Non, c'était toujours. Il y a le jour des expiations, c'était une fois par année, mais il y avait beaucoup de sacrifices. Tandis qu'avec Christ, tout est accompli. OK? Par le sang, Dieu enlève notre culpabilité. On a simplement besoin d'y croire pour avoir une bonne conscience devant Dieu. Et c'est pas... Écoutez bien, on n'a pas à se ramener à nos œuvres. Ah, j'ai-tu bien fait? Tu sais, pour avoir une bonne conscience, ah, j'ai-tu bien fait? J'ai-tu pas bien fait? Non, on se ramène à l'œuvre de Christ, son sang versé. C'est ça qui me donne une bonne conscience. C'est pas moi ce que j'ai fait, ou pas fait, ou aurait dû faire. C'est ce que Christ a fait. C'est ça qui me donne une bonne conscience. Donc, ça m'allège. Le fardeau est plus sur mes épaules. Christ a payé. Christ m'a lavé. OK? C'est pour ça qu'on n'a pas un accès timide. Dans l'hébreu, là, ça dit « Allons avec un cœur sincère. Approchons-nous donc dans la plénitude de la foi. » Puis Dieu nous invite d'aller avec hardiesse, avec une pleine assurance au trône de la grâce. Mais savez-vous quoi, comme c'était pas assez, le sang, oui, c'est pour Dieu, oui, ça nous donne accès à Dieu, mais un troisième bénéfice, le sang, c'est notre victoire sur Satan, l'accusateur des frères. Parce qu'il est notre accusateur sur nos péchés. Ah, t'as fait ça, puis t'as fait ça, puis t'as fait ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, c'est quoi notre victoire sur l'accusateur? Le sang de Christ. « Hey, t'as fait ce péché-là, t'as fait ça. » Puis il peut nous accuser sur les multiples péchés. Oui, mais le sang de Christ a payé pour. Tu m'accuses sur un dossier qui est déjà fermé. T'es passé en retard, trop tard, ça marche plus. Parce que on est complètement justifié, lavé dans le sang de l'agneau. Écoutez aussi à ce sujet-là, dans Hébreu, au chapitre 9. Excusez, je l'ai mis ici. Ah, je l'ai lu tantôt, mais ben c'est ça, oui, ben j'ai lu les deux aussi, le verset 14, c'est que Christ nous purifie notre conscience des œuvres mortes, son sang, c'est ce qui nous purifie, c'est ça, je ne vais pas relire parce que je l'ai lu tantôt, mais juste pour dire tout ça, face à notre accusateur, c'est-à-dire que, à cause que Dieu lui-même est pour nous, on n'a pas à craindre l'ennemi de notre âme, puis on n'a pas non plus à l'écouter. Quand on écoute Satan qui nous accuse, on n'écoute pas la bonne personne, on écoute le menteur. Dieu, il nous dit la vérité sur notre péché. Satan nous compte des mensonges. Ah, t'as-tu vu comment ça fait dur? Dieu nous dit non, j'ai payé pour. En fait, ce qui est tricky, comme dirait mon beau-père, c'est qu'il a raison de nous accuser sur ce qu'on a fait parce qu'on en fait des péchés. C'est pas qu'on ne fait plus de péchés, mais c'est que Dieu ne les tient plus contre nous autres.
Amen.
Fait qu'il peut même nous accuser, mais on est déclaré non coupable. Et en acceptant l'accusation de notre ennemi, on accuse on accepte le mensonge, puis on regarde à nous-mêmes, c'est là qu'on se décourage, au lieu de regarder à Dieu qui a pourvu parfaitement. Parce que oui, on pêche, mais gloire à Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pour ça, par la foi dans le sang qui est versé pour nous, on refuse de se laisser déloger de notre position d'enfant de Dieu, justifié, lavé, pardonné. Hein, c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous, vous avez été justifié, lavé, pardonné au nom de Jésus-Christ. Donc, ça c'est bien important. Une dernière note par rapport au sang puis au péché pluriel. Le péché, c'est pas à prendre à la légère quand même si Dieu a tout payé. Parce qu'un péché non confessé donne accès à Satan. Hein, ça dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Si je ne m'humilie pas quand je pêche, on n'a pas besoin de demander pardon pour le péché qui est déjà pardonné, mais on a besoin de le confesser. Dieu, j'ai péché contre toi. Pas parce que maintenant je suis pardonné, puis je m'en fous du péché. Non, non. Parce que la Bible dit, bon, puis c'est vrai pour la colère, mais aussi le manque de pardon, puis OK, toutes sortes de péchés comme ça qui peuvent donner accès à Satan. Il faut les confesser, sinon on lui donne accès. Alors, lorsque Dieu, comme ça, nous amène à voir notre péché, puis on le confesse, on peut le remercier. Merci que tu as payé déjà pour. Maintenant, je veux marcher à la lumière de ce pardon. Fait qu'arrêtez d'essayer de ne pas pécher, mais confessez le péché quand vous péchez et croyez que vous êtes pardonné, que Dieu vous accepte. C'est un bon test sanguin. Notre frère Coates a passé beaucoup de tests sanguins. Ça, c'est le meilleur qu'il n'y a pas. Amen.
Amen.
C'est ça pour le sang, maintenant, à la croix. Puis là, là, c'est vraiment le plus important pour comprendre Romains 6. C'est pas que le sang, c'était pas important, mais pour comprendre Romains 6, la croix, là. Fait que là, je vais essayer de faire un petit jig ou je sais pas quoi. Si vous êtes fatigué, là, levez-vous, faites deux, trois étirements. Non, j'ai besoin de toute votre attention. C'est pas compliqué, mais j'ai besoin de votre attention soutenue. La croix s'occupe de notre nature pécheresse. Okay? Donc, le sang s'occupe de nos péchés pluriels, nos actes de péché. La croix s'occupe de notre nature pécheresse. C'est beaucoup l'emphase de Romains 5, 12 à 21. Donc, le péché en tant qu'entité, en tant que principe. Okay? En fait, c'est ce que nous sommes en dehors de Jésus-Christ. Et la croix, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a délivrés de nous-mêmes pour mettre fin à la guerre civile qu'il y avait dans notre vie. Avant d'être sauvé, il n'y avait pas de guerre. Parce qu'on était esclaves du péché. Mais une fois qu'on est sauvé, avez-vous pensé pourquoi que pourquoi les chrétiens ils ont l'expérience Romains 7? Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Puis quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, c'est la guerre civile. On est tiraillé. C'est parce que Romains 7, c'est un chrétien qui est passé par Romains 6, mais qui a de la misère à y croire. C'est ça, Romains 7. Parce que la déclaration d'émancipation, c'est Romains 6. On est libéré, on l'a lu tantôt. On est libre du péché parce qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Romains 7, c'est se remettre sous la loi. Mais être sous la grâce et vivre dans cette liberté, c'est plus nous qui travaillons, qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est pour ça qu'on a la victoire, parce que c'est pas nous qui le fait, c'est Dieu qui le fait en nous. OK? Bon. Parlons de la croix. Cette délivrance du péché qui est dans nos membres. Parce que il y a vraiment un combat entre la chair et l'esprit. Écoutez Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Parce que, oui, le sang s'occupe de notre justification, mais la croix s'occupe de notre sanctification. Écoutez, vous avez bien compris ce que je viens de dire? Justification, le sang, lavé, on est justifié devant Dieu. Mais là, pour grandir dans le Seigneur, ou pour le dire autrement, pour marcher avec Dieu, c'est la croix qui s'occupe de ça. OK. Si on avait seulement le pardon de nos péchés par le sang de Jésus, on ne pourrait pas vivre la vie chrétienne comme Dieu nous le demande. Pourquoi? Parce que nous serions l'obstacle insurmontable. Ah oui, je suis tout pardonné, mais je suis encore pogné avec moi. Je suis encore pogné avec cette puissance en moi qui veut rien savoir de Dieu. OK? Fait que pour que ça soit vraiment réglé, ça prenait la croix. C'est ça la bonne nouvelle. La croix règle le problème que le sang n'était pas destiné à régler. La croix s'occupe du pécheur, notre nature fondamentale de pécheur héritée par Adam. Ce que nous sommes en Adam. Autrement dit, le sang, c'est par rapport à ce qu'on a fait, puis la croix, c'est par rapport à ce qu'on est. OK? Maintenant, je vous demande d'aller un petit peu dans le passé, peut-être pas si loin. Ah, puis la croix, j'ai ma petite photo. Réveillez-vous tout le monde. Regarde, c'est elle ici, là. OK? Puis le petit monsieur regarde ça. Lui, vient d'être sauvé. OK? Rappelez-vous au début de la vie chrétienne. On était souvent concentrés, en tout cas, je parle pour moi, concentrés sur ce que je faisais. OK? Plus que ce que je devais être. Parce que je me concentrais sur ce que, en tant que chrétien, maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis qu'est-ce que je dois pas faire? N'est-ce pas? Je sais pas si vous, ça vous rappelle, mais en tout cas, puis c'est pas juste resté au début. Malheureusement, c'est pas juste été le début de ma vie chrétienne. Ça a été pas mal aussi. Fait que je voulais changer mes actions parce que je savais qu'il y avait des affaires qui marchaient pas dans ma vie. Mais je me suis découragé à maintes et maintes et maintes reprises. Puis pas tout l'après-midi, là, je vais pas faire un message sur répéter maintes, mais c'est arrivé souvent. Okay? Pourquoi? Parce que je travaillais sur l'extérieur, mais ça changeait pas mon intérieur. J'avais beau tout changer mes actions, j'étais encore pogné avec moi-même. Puis même si on essaye de plaire à Dieu, avec tout le bon vouloir, il y a quelque chose en dedans de nous qui ne veut pas. Puis même chose par rapport à aimer la personne, montrer de la grâce, de la patience, on n'a pas cette disposition-là de façon naturelle. C'est là qu'on constate que non seulement on fait des choses mauvaises, mais on est mauvais. C'est ce qu'on appelle être en Adam. Puis souvent, quand au début de la vie chrétienne, c'est parce que souvent, on n'a même pas enseigné ça. Ah, ça là, ça c'est ce que tu étais avant. On fait, non, non, tu es un pécheur sauvé par la grâce. Savez-vous que c'est pas vrai de dire ça? C'est comme si je disais, ben j'étais un pécheur, mais maintenant mon identité, c'est un saint. C'est comme si je disais, oh, t'as-tu vu la belle chenille convertie? Mais, comprenez-vous de quoi je parle? Tu sais, ça a des ailes, là, puis ça a des couleurs. Là. C'est beau des chenilles converties. Moi, j'aime ça, des chenilles converties. Non, on appelle ça un papillon,
oui.
Parce qu'on réfère à ce qu'il est une fois transformé. Bien, Dieu réfère, et même les Corinthiens le matin, Dieu les réfère comme des saints. Parce que pécheur, ça réfère à notre identité, ce qu'on était en Adam, avant. Maintenant, en Christ, on est saint, parce qu'en Christ, on est à part. Bon, maintenant, t'es rendu où avec tout ça? OK, donc, ce qu'on est en Adam, puis ça va nous aider à comprendre, parce que la clé pour comprendre Romains 6, c'est comprendre l'expression « en Jésus-Christ », « en lui ». Puis là, c'est la fin du message, c'est vraiment le plus important. Là, je mets la table pour vraiment qu'on comprenne comme il faut Romains 6. D'abord, je vous lis 1 Corinthiens 15, 20 à 22. « Mais maintenant... » Oh! Ça, c'est le fun, « mais maintenant... » Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voyez-vous? En un, en l'autre. En un, c'est la mort, en l'autre, c'est la vie. Donc, ils meurent en Adam, ils revivront en Jésus-Christ. Puis on voit, ça nous parle d'un renversement de l'état des choses. Mais maintenant, tu sais, c'était comme ça, mais là, mais maintenant, à cause de l'œuvre de Christ, les choses ont viré de bord. Et là, ici, ça parle au futur, parce que ça nous parle de la glorification. Quand que à la résurrection, on va être dans la présence de Dieu. Mais savez-vous quoi? Romains 6, ça nous parle de la délivrance actuelle de la puissance du péché. Ça commence maintenant la délivrance. La vie chrétienne, ça commence pas quand on va être au ciel. Ça, c'est l'aboutissement, mais déjà, maintenant, on peut être délivré de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, en Adam versus en Jésus-Christ, savez-vous quoi? C'est tellement petit comme expression, c'est peut-être trop petit, c'est peut-être pas trop simple, mais je pense que c'est l'expression la moins comprise des milieux chrétiens. J'explique. Premièrement, savez-vous que c'est la clé pour la vie victorieuse? Pour laquelle on soupire tant, puis peut-être que même on est dit, comment ça j'ai pas vu ça avant, c'était tellement simple. Parce que souvent c'est justement ça. C'est tellement simple, alors que souvent on a voulu quoi? Chercher par toutes sortes de détours, des formules, des recettes chrétiennes. Ou pour le dire dans les mots de 2 Corinthiens 11, 3, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ. C'est pas compliqué, c'est ce que je suis, puis agir à la lumière de ce que je suis, de ce que Dieu a fait de moi. Écoutez, Romains 5, 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, okay, ben, parce que Adam, en fait, ça s'est étendu à tout le monde, de même, par un seul acte de justice, la justification s'étend à tous les hommes. » Le principe, c'est comme en Adam, il s'est passé de même en Christ, il se passe l'équivalent de l'autre bord. Comme c'est arrivé négatif d'un bord, ça arrive positif de l'autre. Ça réfère à notre identification, à notre tête. Savez-vous que l'humanité déchue, avant qu'on soit en Jésus-Christ, nous avons tous la tête, c'est Adam, notre tête. Il est notre représentant. En théologie, on appelle ça, c'est notre représentant fédéral. Gouvernement fédéral, je ne sais pas si ça vient de là, mais okay, c'est comme ça qu'on appelle ça. Okay? C'est notre tête. Okay? Je vais vous l'expliquer dans un instant, vous allez comprendre peut-être un peu plus. Puis quand on est... Donc, c'est on est de sa race. On appartient à ceux qui sont... Tu sais, je veux dire, on n'est pas des singes, on n'est pas... on est de la race d'Adam. Adam représente l'ensemble de l'humanité déchue. OK? Puis... c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort ainsi, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. OK? Adam a péché, puis on a tous la conséquence, mais pour le dire autrement, quand Adam a péché, c'est comme si on avait péché avec lui, on était en lui. Comprenez-vous? C'est pas juste qu'il était là, 6000 ans, c'est qu'on était en lui. Pensez-y, là, on remonte à ça, il est de notre race, puis on était en lui. On a péché en lui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que c'est important pour comprendre l'autre côté après. Jésus-Christ, lui, il est le deuxième homme. Il est le deuxième Adam, le dernier Adam. Je vous lis où est-ce que ça dit ça. C'est 1 Corinthiens 15, 45 à 47. C'est pourquoi, comme il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, ça c'est Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre et terrestre. Le second homme est du ciel. Quand on voit ces deux expressions-là, on voit que Jésus, en tant que dernier Adam, il est la fin de tout ce qu'est la malédiction qu'il y avait en Adam. Puis en tant que deuxième homme, il est la tête d'une nouvelle race. D'une nouvelle race. Je n'aime pas le mot race, là. Pas très politiquement correct de dire race, mais comprenez-vous, d'une nouvelle humanité. Jésus-Christ est le représentant de la nouvelle humanité rachetée, restaurée, renouvelée. Je vais vous l'illustrer de cette façon-là avec un exemple biblique. Dans Hébreu, ça nous dit, c'est un peu spécial, ça nous parle de Aaron puis Melchizedek. Plus, ça dit que quand Abraham est allé donner la dîme à Melchizedek, tu sais, là, c'est dans Genèse 14, il y a eu une guerre, puis là, Melchizedek, qui est probablement l'ange de l'Éternel, Christ dans l'Ancien Testament, en tout cas. Là, Abraham s'en va, puis là, vu qu'il est supérieur, il donne la dîme de tout. Puis le point dans Hébreu, c'est de dire que, ben, Christ, qui est de la lignée de Melchizedek, a un sacerdoce supérieur à celui d'Aaron. On ne va pas rentrer encore là dans les détails, mais ce qui amène, comme il dit, Aaron était dans les reins, ok? Il était représenté par Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il parle de la nation d'Israël. Donc Abraham, il a eu ses fils, puis il a donné à Aaron. Donc on peut dire que le point de l'auteur d'Hébreu, Paul, je pense, c'est que quand Abraham a donné la dîme à Melchizedek, c'est comme si Aaron l'avait donné. Parce qu'Aaron était dans Abraham. Abraham était son représentant, il était sa tête, comprenez-vous? Mais de la même façon, quand Adam a péché, on était là, on a péché, nous autres avec. Mais de la même façon aussi, quand Christ est mort sur la croix, on était en lui. On est mort avec lui. Ça, mes amis, là, méditez là-dessus, que Dieu l'écrit sur nos cœurs, c'est pas une théorie puis quelque chose de pas important. C'est fondamental, comprendre ce que nous sommes en lui.
Amen.
Merci, Eric. Ça, c'est un bon amène à la bonne place. Et Jean-Pierre de secondé, j'adopte à l'unanimité. Je suis l'unanimité. Je viens de décider ça, là. Oh, man, ça, c'est enregistré. Tout ce que j'ai dit peut être retenu contre moi. J'ai presque fini, mais voici ce qui est tellement important de comprendre par rapport à Romains 6. Ah, Adam, là, c'est juste du désespoir. C'est le péché, c'est la condamnation, c'est la chute. Le péché est rentré, puis là, paf, ça s'est étendu à tout le monde. Mauvaise nouvelle. OK? Ben, en Christ, c'est toute l'espérance qui est là. C'est, tout est renouvelé. Puis c'est là qu'on voit toute la grandeur, la bénédiction de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Puis pourquoi tant d'espérance rattachée à ça? Parce que c'est la voie de la délivrance divine. C'est pas la meilleure religion, non, c'est ce que Dieu a fait. C'est la délivrance divine. C'est son acte de libération contre mon péché, contre ma nature pécheresse. Donc, comment, si je vous pose la question, comment sortir de la malédiction, du désespoir d'être en Adam? Le sang ne peut pas faire ça. Le sang me pardonne de tous mes péchés. Mais pour être libéré de ce que je suis en Adam, ça prend la croix. Fallait mourir. Pourquoi? Parce que j'ai ça de naissance, ce que je suis en Adam. Mais fallait que je meure puis que je naisse de nouveau. Fallait recommencer à zéro. En passant, ça c'est vrai pour le péché. C'est même vrai avec la loi, parce que Romains 7, on va voir ça. On est mort aussi à cette loi, parce que la loi, ça dit tout le temps, faut que tu fasses ça, puis on ne l'a jamais. Dieu nous a dégagé de la loi. Maintenant, on est libre, puis c'est ça l'idée de vivre sous la grâce. On n'a plus besoin de la loi comme un enfant qui se le fait dire. Il l'a écrit sur nos cœurs, puis c'est ce qu'on désire de nous-mêmes, c'est l'amour qui nous motive. Un peu comme si, mettons, c'est déjà arrivé, j'ai pris l'avion, puis là, j'arrivais, puis ma femme venait me chercher à l'aéroport. J'ai pas ok, là, je suis dans l'avion, je me dis, hey, là, quand ma femme va arriver, t'aurais-tu donné un bec? Peut-être donner une colle. Un bec, ça joue. Si je donne ça à la bouche, c'est-tu correct? Pensez-vous que je me posais vraiment ces questions-là? Non, parce que je l'aime, c'est naturel, c'est quoi, je l'ai vu, là. Il fait une grosse colle, puis, tu sais, c'est ma femme, je l'aime, puis, tu sais, c'est normal. Ben, Dieu, il a fait ça avec nous autres. Non, pas ça. Hey, c'est-tu ça que je devrais faire avec Dieu? Non, on l'aime, puis c'est ça qu'on veut. On veut vivre. Comprenez-vous? Il nous a changé de l'intérieur. Donc, la croix règle le problème qu'on a de naissance. Et ça, fallait que ça soit résolu par la mort, par ma mort. Fallait que moi, je meure. Comment ça s'est fait? En Jésus. Je suis mort en lui. Avec lui. Comme je l'ai dit, c'est pas juste que Jésus est mort sur la croix, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, j'étais là avec lui sur la croix. Puis on pourrait rentrer dans les implications avec l'élection, les affaires. Il n'y a pas d'hasard. Là. Je veux dire, c'est pas comme si Dieu regardait, oups, lui, je ne l'avais pas vu. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui nous dépasse notre compréhension, mais on était là. On était là. En lui, on bénéficie de sa mort sur la croix. On est mort avec lui pour nous délivrer de la puissance du péché, de notre nature pécheresse, de ce qu'on est. Parce que l'esclavage est venu en Adam, la délivrance vient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre mort avec Jésus-Christ, c'est la clé de voûte. C'est ce qui est la vérité centrale pour notre émancipation. Puis là, ayant dit tout ça, relisons Versets 1 et 2, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment? Parce qu'on est mort avec Christ. Comment vivrions-nous en lui? On est mort avec Christ. Qu'est-ce qu'on ferait à vivre encore dans notre ancienne vie? OK? Puis aussi, versets 6 et 7, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voyez-vous, ça parle de ce qui a été accompli. Afin que le corps du péché, puis on va y aller plus en détail, c'est quoi le corps du péché, soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Il fallait passer par la mort pour être capable de vivre. Comme Christ a dit, le grain, faut qu'il tombe en terre, il faut qu'il meure pour qu'il vive, mais il fallait qu'on meure avec Christ pour être capable de vivre avec lui. C'était obligatoire. Il fallait que la malédiction de notre naissance en Adam soit brisée pour qu'on puisse bénéficier de la bénédiction de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. OK? Je ne sais pas pourquoi on ne comprend pas ça plus que ça. C'est peut-être parce que ce n'est pas assez enseigné. Mais c'est tellement important parce que, je vais vous donner un exemple. Qui ici qui a entendu, qui a dit et qui a voulu mourir à soi-même? Hein? Il faut mourir à nous-mêmes. Hein?
Ben oui, faut
il faut. Il faut se faire mourir. C'est une fausse interprétation, une mauvaise interprétation d'Éphésiens 4, 21 à 24. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails à ce moment-ci, mais pourquoi dans Colossiens, ça prend la même expression puis ça dit que ça a été fait? Bien, parce qu'il y en a un que ça parle de l'acte accompli à la croix, puis l'autre, ça dit de vivre à la lumière de ça. Okay? Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire, de me faire mourir. Je ne peux pas faire ce que juste Dieu a fait puis lui est capable de faire. Mais je peux vivre à la lumière de ça, par exemple. C'est ça l'idée de se dépouiller, se revêtir, c'est vivre à la lumière de ça. Parce que dans Colossiens, ça dit « ayant été dépouillé, ayant revêtu, tu sais, ça parle au passé. Pourquoi ça parle au passé? Tu sais, il y en a un que c'est le participe, puis l'autre, c'est l'impératif, mais c'est ça. Comme j'ai dit, je vais parler dans les détails là-dessus, seulement pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'essayer de faire ce que Dieu a déjà fait. Il faut se reconnaître comme mort au péché, le croire, ou pour prendre les mots de Romains 6:11, se considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Dieu s'est occupé de nous autres en Jésus-Christ. C'est ça le sens du verset 3, Romains 6:3. Ignorez-vous donc que vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Baptisés, on dit des fois le baptême de l'air, on a expérimenté sa mort, on a été immergé dans sa mort, on l'a vécu sa mort. C'est ça que ça veut dire. On est baptisé en sa mort. Quand il est mort, on est mort avec lui. D'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas lu ce verset-là, ça fait longtemps, mais ça dit « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 1:30, c'est par lui qu'on est. Tu sais, dans la vie, on veut être bon, je veux être ci, je veux être ça. Comme chrétien, là, c'est par lui que je suis. Mon être, mon essence que je suis, c'est parce que Dieu a fait de moi. C'est pas ce que moi je fais, c'est pas à quoi j'aspire, c'est ce que Dieu a fait. C'est ça mon identité. Je suis par lui. C'est ça la nouvelle naissance. Pour ça je vous dis, ça peut. C'est pas trop dimanche après-midi léger, mais il faut passer par là. Okay? Il faut souffrir. En tout cas, peut-être pas le bon mot, là. Je pense pas que vous souffrez, mais. Réveillez-vous! j'ai presque fini. Je suis rendu à ma dernière page. Ce que je suis en Jésus-Christ, ce n'est pas le résultat de ce que j'ai fait ou ce que j'essaye de faire, mais de ce que Dieu a fait. C'est un acte divin accompli. That's it. N'essayez pas de faire ce que Dieu a déjà fait. Demandez-y pas de faire ce qu'il a déjà fait. Il va vous dire, c'est fait. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, c'est passé. C'est pas, je me crucifie avec Christ. Mm-hmm. Il y a une version qui dit, je suis crucifié avec Christ. Non. C'est comme ça dirait que c'est... Non, j'ai été. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé puis qui a une conséquence dans le présent continuellement. OK? Donc, ça m'amène à terminer avec ceci. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5:14? Car l'amour de Christ nous pèse parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. Ils sont morts. C'est accompli. C'est comme si je prends ce livre et que j'insère dedans un papier. Qu'est-ce qui arrive à mon papier si j'envoie mon livre par la poste? Ben, le papier s'en va par la poste. Qu'est-ce qui arrive à mon papier si mon livre tombe dans l'eau? Ben, le papier. Ce qui arrive au livre, ça arrive au papier. Ce qui est arrivé à Jésus, ça m'arrive à moi. C'est « Je suis en lui. Je fais partie de lui. Je suis participant de la nature divine. » Ça, ça vient de Watchman Nee. Lui, savez-vous, c'est un gars très intelligent. Il était docteur. Puis Dieu l'a appris, c'est un Chinois, à des gens de la campagne qui n'avaient vraiment pas d'éducation. Fait qu'il était doué pour amener des vérités comme ça d'une manière simple. C'est un frère bien-aimé. Là. Il est mort, là. Il est quand même bien-aimé. Moi, il m'a tellement béni souvent, là, Monsieur Nee. Là. Monsieur Nee? Non, ça, c'est Kini. Parce que Nee, c'est N-E-E. Mais je vous conseille les lectures de Watchman Nee. C'est très, très bon. C'est un homme, là. Je veux pas dire que je veux dire, c'est pas le pape, là, mais il avait compris de ce dont on parle. C'est pour ça qu'on a besoin, on n'a pas besoin de demander à Dieu de nous crucifier parce qu'il ne nous demande pas de faire ce qu'il a déjà fait. Ce qu'on voit là, c'est pas juste une position doctrinale. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ah, c'est notre position. Non, non. C'est un fait éternel, indisputable, qui a des conséquences dans notre quotidien. Puis c'est ça qu'on va reprendre le temps de regarder dans Romains 6. Donc, je termine avec cette simple chose après-midi. Là, dans son expiation, par son sang, Dieu agit seul. Okay? Christ est allé dans la présence de Dieu avec son sang. Il n'y a pas personne qui était là. Il n'y a pas personne. Okay? Il n'y a pas personne qui pouvait y prendre part. Mais le Seigneur n'est pas juste mort pour verser son sang précieux. Il est aussi mort pour qu'on meure avec lui. Quand il est mort sur la croix, il n'était pas seul. On était là avec lui. Et il est mort en tant que notre tête, notre représentant, et sa mort nous inclut. Le Seigneur m'a inclus dans sa mort et sa résurrection. C'est ça la beauté d'être en Jésus-Christ. Et comme je disais tantôt, en tant que dernier Adam, Jésus-Christ est le représentant de la race humaine avec son œuvre qui est venu mettre fin à la malédiction de ce qui était en Adam. Puis en tant que deuxième homme, il est le représentant d'une nouvelle humanité rachetée, sauvée. Et de cette manière, il a rassemblé en lui-même tout ce qui était, tous ceux qui étaient en Adam, puis les a amenés sous le jugement de sa mort afin de leur donner la vie. La croix, c'est l'acte divin par lequel Dieu a fait passer, nous a fait passer d'Adam à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre notre salut. Une fois qu'on est en Christ, on ne peut pas retourner à Adam. Ça ne se défait pas, ça. La perte du salut, quand on comprend ça, puis en passant, c'est arménien. Puis en Christ, puis... Tu sais, arménien puis calviniste, là, ça nous aide à des fois à faire la part des choses là-dedans. Vous savez que je suis d'une position de ne pas vouloir me loger dans un système ou dans l'autre. Mais je veux dire, je ne suis pas arménien de dire qu'on perd notre salut, parce que quand tu comprends ça, puis encore là, quand on voit comment Dieu, son dessein est éternel, je veux dire, c'est pas nous qui a choisi Dieu puis qui l'a aimé en premier. Là. C'est lui qui nous a aimé en premier. Là. C'est la beauté de ça. On a une sécurité là-dedans. On est dans l'œuvre de Dieu depuis la fondation du monde. Puis quand Christ est mort, on était là, puis c'est beau, ça, là. C'est pas... Faut pas avoir peur de ça. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Donc, là, on commence à être prêt. La semaine prochaine, on va plonger, mais c'était pour se préparer pour Romains 6. Amen. Amen. Tout le monde est encore vivant et réveillé?
Oui.
Amen. Seigneur, on te remercie. Ta parole est merveilleuse. Elle est vivante. Tu es le Dieu de toute grâce et c'est merveilleux, Seigneur, de marcher avec toi, de te connaître. Merci pour ce peuple, Seigneur, qui a soif de toi, qui se fait enseigner même les choses, la nourriture solide. Et ça, c'est précieux, Seigneur. C'est pas juste du monde qui veut être diverti, se faire flatter dans le bon sens du poil. Ou comme ça dit, dans les derniers temps, il y en a qui vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ben, disons qu'aujourd'hui, on était pas mal loin d'entendre des choses agréables. On a parlé de souffrir pour choisir la vie. On a parlé de comprendre que souvent, il a été sous notre nez, puis on n'a pas pris le temps de voir la simplicité, la beauté de tout ça. Merci que tu as un peuple ici qui désire ça. Que tu te formes un peuple, c'est merveilleux, Seigneur. Bénis chacun. Beaucoup n'étaient pas là aujourd'hui, mais Seigneur, bénis les gens à la maison, les gens qui écoutent par après ces messages, Seigneur, et fais ton œuvre dans notre Église. Et au-delà, Seigneur, on aime nos frères et sœurs. On n'est tellement pas meilleur que personne. On n'a rien de nous-mêmes, mais si on a quelque chose, parce qu'on l'a reçu. Donc, Seigneur, on veut avancer avec toi dans l'humilité, dans l'amour pour nos frères et sœurs, et te glorifier, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta patience. On te bénit, on te loue au nom de Jésus. Amen. Amen.